Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnels pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Avec notamment Christian Vélo, généticien, spécialiste des interactions entre environnement et santé. Et Jean-Marc Sopcich, médecin, expert des approches globales du métabolisme. Programme complet, intervenants et renseignements sur NutriTalkGala.fr.
Cette émission vous est présentée par le laboratoire familial Lepivitz, votre expert en nutraceutique et fabricant de compléments alimentaires clean à la pointe de la micronutrition.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.
Bonjour Olivier.
Bonjour Fabrice.
Olivier Coudron, chaque mercredi sur Nutri Radio, sur le live entre 11h et midi. Vous aimez cette émission, merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Et de penser à vous abonner aussi sur les plateformes si vous le faites en podcast. Par exemple, là, si vous nous écoutez qu'il est minuit, bon, bah, vous n'êtes pas sur le live. Vous vous abonnez soit sur Spotify, soit sur Apple Podcast, sur Deezer, pour ne rien rater de ces aventures. Les aventures d'Olivier Coudron, c'est aussi pour être le titre d'un film ou d'un bouquin. Ouais, oui, vous avez, on le sait, l'explication claire, limpide, vous êtes un petit peu doué, vous êtes le professeur qu'on aimerait avoir. D'ailleurs, ça nous permettra d'enchaîner dans un instant sur ces formations SIN que vous proposez. Mais en tous les cas, aujourd'hui, on a plein de choses à voir ensemble. On va parler du stress, le stress. On est stressé. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut anticiper une aggravation de ce stress? Parce que je pense qu'un peu de stress, c'est bien, trop, il faut vraiment faire quelque chose. Et quels sont les indicateurs qui nous permettent de voir que la pression, elle est en train de monter. On remercie notre partenaire laboratoire, Lepivitz, c'est du Clean Label. C'est un laboratoire familial comme on les aime, soucieux des bonnes formules. Et donc, merci à eux de nous permettre bien, de vous proposer ces contenus pour une meilleure compréhension de votre santé. Bien, je vous le disais. J'ai l'impression que je suis hyper speed. Pourtant, j'ai pas bu de café ce matin. J'ai l'impression que je pars comme ça. On respire. Merci, chers auditeurs, de me le faire remarquer. Je suis stressé ou pas stressé? Est-ce qu'être speed, c'est être stressé? Est-ce qu'on peut être un petit peu mou comme ça et puis dire oui, je suis stressé? Je ne sais pas. Comment on repère le stress, mon cher Olivier?
Alors, en effet, là, ça ressemble un petit peu à un niveau de stress qui est un état d'alerte, de vigilance. Exactement. Mais comme vous l'avez dit, c'est intéressant de bien distinguer le stress qui est une réaction adaptative. En fait, le stress, c'est un mécanisme physiologique naturel salutaire qui nous sauve la vie depuis l'aube de l'humanité et qui est une adaptation. Adaptation à ce qui est imprévu. Et donc, il faut qu'il y ait des mécanismes pour réagir. Alors, classiquement, on dit que cette adaptation physiologique, c'est soit lorsqu'on a une menace, et c'est souvent une menace perçue comme inconsciente, hein. C'est pas forcément une menace bien identifiée, bien perçue, c'est parfois diffus. Mais quand on perçoit une menace consciente ou inconsciente, eh bien, automatiquement, et c'est ça qui est très intéressant, automatiquement, l'organisme va nous aider à nous adapter. Et là, il va mobiliser, bien sûr, des mécanismes à la fois hormonaux, à la fois neurologiques, à la fois métaboliques, pour mobiliser des ressources, hein, nous faire sortir justement, cher Fabrice, de cette éventuelle tranquillité, cette nonchalance, cette hypovigilance vers un état d'alerte. Et ça, c'est plutôt favorable, hein. C'est important de pouvoir s'enfuir si on est menacé, pouvoir lutter dans la nature. Donc ça, ce sont des mécanismes ancestraux. Bien évidemment, aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup plus de menaces inconscientes, un climat d'insécurité, de flou, d'incertitude. Et ce sont des petits signaux qui nous stressent, en effet, aujourd'hui, et qui, comme il y a plus de 100 000 ans, vont mobiliser les mêmes ressources, hein, c'est-à-dire les hormones surrénaliennes, le cortisol, l'adrénaline, mobiliser le sucre pour éventuellement activer les muscles, etc. Donc, nous avons des mécanismes physiologiques, pas de problème. Aujourd'hui, en 2026, eh bien, on a ces mêmes mécanismes, mais très fréquemment sursollicités, Mais pas des gros stress, mais souvent des petits stress, des petites menaces, des retards de train, des voix de nos collaborateurs qui sont un petit peu, on va dire, critiques, que sais-je, hein, l'insécurité politique, sociale, environnementale. Eh bien, tout ça, ça crée une stimulation un petit peu permanente, régulière, comme le petit caillou dans la chaussure, hein, si vous voulez. Et ce stress un peu permanent, encore une fois, c'est pas grave puisque on s'adapte. Mais là où ça devient pour nous médecins un vrai problème, et quand je dis un vrai problème, c'est un facteur de risque majeur, hein, de cardiovasculaire. On meurt plus aujourd'hui de stress que d'hypercholestérolémie dans une maladie cardiovasculaire. Ces deux facteurs majeurs s'amplifient. Sauf que le stress, eh bien, on le prend moins en charge. Alors, Fabrice, je viens de parler d'un mot-clé, c'est la charge. Et eh bien, nous avons un terme en médecine pour parler de cette accumulation mal gérée, c'est ce qu'on appelle la charge allostatique du stress. La charge allostatique du stress, c'est un gros mot, pour dire que lorsqu'on a un petit stress quotidien, qu'on respire, que la situation s'estompe, etc., on revient à la base, on revient dans l'homéostasie, dans l'équilibre. Mais quand on a plein de petits facteurs, qu'on respire pas bien, qu'on est sédentaire, qu'on mange mal, etc., etc., eh bien, on ne revient plus à l'état d'équilibre. Et c'est comme une hélice, finalement. On fait des tours d'hélice, on monte, et ça s'accumule. Hein. Il y a une charge que l'on appelle la charge allostatique. Ça veut dire que l'on revient pas exactement au même état. On s'aggrave dans cette charge. Ça, c'est le problème, the big problem du stress.
Le big problème du stress. Mais j'ai envie de vous, est-ce qu'on n'est pas des grosses machines à stress finalement? Parce qu'à l'époque, on peut dire oui, on stressait parce qu'il fallait savoir si on allait échapper au mammouth du coin ou au guépard. Enfin, quelques gros dangers. Ensuite, et aujourd'hui, on se dit, ben, on a échappé à tout ça. On n'est plus dans l'hypervigilance. On n'a plus besoin de stresser comme. Et pourtant, on se réinvente aussi du stress, le travail, le machin. Et demain, peut-être que si malgré tout, tout s'améliore, on va fabriquer du stress encore pour d'autres raisons. Est-ce qu'on n'est pas des machines à stresser?
Alors, on n'est pas des machines à stresser. Par contre, la grande différence aujourd'hui par rapport à nos grands arrière-grands ancêtres et aux grands-parents, c'est notre incapacité à s'adapter. Parce que ces mécanismes d'adaptation, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de mouvement. Ils ont besoin d'activité physique. Ils ont besoin de non-sédentarité. Ils ont besoin d'un microbiote et d'une communication entre l'intestin et le cerveau en bonne santé. Par exemple, on sait aujourd'hui que des petites souris axéniques, c'est des souris qui sont privées d'un microbiote, hein, donc d'un dialogue avec l'intestin-cerveau, eh bien, vont avoir une stressabilité. C'est-à-dire que dans des circonstances exactement identiques, elles vont développer davantage de vulnérabilité. Et on voit ça exactement la même chose chez nous. Lorsqu'on a un microbiote qui fonctionne mal parce qu'on mange pas très bien, parce qu'on prend une alimentation moins favorable pour le microbiote, eh bien, on devient désadapté. Donc, moi, je préfère parler de troubles de l'adaptation que de stress, parce que le stress, c'est un terme qui a plusieurs facettes. Alors que quand on parle d'un trouble de l'adaptation, je pense qu'on situe mieux le cadre. C'est un trouble de la communication entre l'intestin, son microbiote, son écosystème et le cerveau, c'est un trouble des mouvements du corps, hein, de la respiration diaphragmatique, c'est un trouble de l'alimentation, et nous avons besoin de tout cela pour favoriser les ressources adaptatives. Voilà, c'est ça que je trouve vraiment important dans la façon de penser le stress aujourd'hui en 2026.
Eh bien, on va marquer une toute petite pause et on va revenir en détail sur ces méthodes pour s'adapter et mieux réagir à ces troubles. C'est juste après ceci.
Soutenez votre bien-être mental et votre cognition avec les compléments alimentaires Lepivitz. Lepivitz, votre laboratoire familial expert en nutraceutique, vous propose des produits Clinabel aux ingrédients brevetés et soutenus par la science. Recommandé par les professionnels de santé, nos compléments allient qualité et éco-responsabilité. Nourrissez votre esprit pour une cognition optimale avec Lepivitz. Pour plus d'infos, rendez-vous en pharmacie ou sur lepivitz.fr. Lepivitz, votre allié pour un esprit clair et serein.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.
Olivier Coudron sur Nutri Radio pour nous parler du stress aujourd'hui, faire un petit point là-dessus. On en parle de temps à autre, mais comment savoir si on est stressé à un point qui est un peu limite, vous savez, atteindre engendrer des maladies, provoquer des choses très compliquées. Donc comment gérer ces troubles d'adaptation, c'est ce que vous nous avez dit. On parle plus de troubles d'adaptation, le corps qui ne s'adapte pas et qui va aller déclencher des choses un peu compliquées. Donc vous avez parlé déjà de la respiration. Avant de revenir en détail sur les moyens pour mieux s'adapter et donc mieux réagir à ce stress, on parlait en début d'émission de ces formations que vous donnez. C'est l'instant un peu promo, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui nous écoutent et qui ont envie d'aller plus loin avec vous. Et même si vous êtes très connu, on ne sait pas toujours que vous proposez ces formations SIN et qui sont très utiles parce que tout le monde veut vous avoir en tant que prof, mon cher Olivier.
Merci, c'est gentil. Alors oui, en effet, l'Institut SIN, c'est un institut de formation Calliope qui a plus de 15 ans maintenant. C'est vraiment le leader en formation en nutrition santé, en micronutrition, en santé globale et intégrative. Alors, c'est 15 ans de formation à la fois universitaire, puisqu'on a un partenariat avec la faculté de médecine et de pharmacie à Bourgogne-Europe, où on est responsable de leur formation en nutrition. Mais également, on fait des formations au sein de l'Institut SIN qui, elles, sont ouvertes à tout le monde. Donc, à la fois des professionnels de santé qui veulent acquérir, par exemple, des compétences. Là, on parle du stress aujourd'hui, mais ça peut être la gestion de la santé globale, métabolique ou autre, le vieillissement, que sais-je, le sport. C'est ouvert aussi à des professionnels de soins, donc pas forcément des thérapeutes, des médecins, mais des gens qui veulent, dans leur domaine, acquérir des connaissances fiables, solide, sérieuse, indépendante, ça c'est vraiment notre ADN, indépendante. Donc ça nous donne une certaine légitimité pour parler avec rigueur scientifique. Et puis ça peut être aussi pour des personnes en reconversion professionnelle. On a beaucoup qui bénéficient des reconversions et qui suivent nos cursus parfois pendant un an, deux ans. On a des grosses formations, toutes diplômantes. Et encore une fois, je dis scientifiques, rigoureuses, très humaine, on est très très relation humaine aussi, et surtout indépendante comme je le disais. Voilà un petit peu, donc il y a une belle formation de neuronutrition pour celles et ceux qui veulent tout savoir sur le stress, les repérages, les prises en charge, les aliments, les micronutriments, etc.
Bien, bah écoutez, merci pour ces précisions. Et donc, pour revenir au stress maintenant, quels sont les mécanismes, les leviers à activer pour mieux s'adapter, pour que notre corps ne soit pas saturé?
Alors, deux éléments importants. Déjà, de savoir à quel niveau nous sommes stressés. Donc, on a des échelles cliniques, pardon, on a des questionnaires qui sont validés pour certains et qui permettent de repérer par différentes approches à quel niveau nous sommes stressés. Bien sûr, il y a les troubles du sommeil, l'irritabilité, les sautes d'humeur, voilà, tous ces petits signes cliniques qui permettent d'avoir une sorte d'échelle. Et puis on dit, on va avoir une note de 50 sur 60. Voilà. Donc ça, c'est important pour vérifier, toujours important de vérifier qu'après avoir fait quelque chose, ça va mieux. Pour moi, c'est très important cette objectivité. Et puis, pour les médecins ou les thérapeutes dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi des marqueurs biologiques. On s'intéresse beaucoup aujourd'hui à des marqueurs comme le cortisol, le salivaire. C'est très simple, puisque le cortisol, c'est l'hormone de la réponse adaptative, de l'hormone du stress, mais qui doit suivre une courbe circadienne, ça veut dire une courbe dans la journée. Normalement, quand on s'adapte bien, eh bien, on a une montée du cortisol entre le moment où on ouvre les yeux et 30 minutes après. Donc ça, c'est la locomotive qui commence notre journée. Et puis après, ça décroît, il y a une pente douce pour finalement, en fin de journée, on ne devrait plus avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de cortisol. Ça doit être quasiment nul. Ça, c'est la normale. Eh bien, quand on fait ces dosages salivaires, matin, midi, soir, par exemple, chez des patients, et qu'on regarde comment cette courbe se dessine, on voit que les gens stressés, eh bien, ils ont soit trop vite à démarrage, ils sont hyper stressables, soit au contraire, ils sont épuisés et ils sont fatigués, c'est presque l'épuisement surrénalien, ou alors leur cortisol reste élevé. Et ça, c'est très embêtant. C'est ça, cette fameuse charge allostatique dont je parlais. Donc, on a des moyens de vérifier, repérer, soit sur des petits signes, soit par des marqueurs biologiques beaucoup plus objectifs. Parce que Fabrice, on le voit bien, nous, en tout cas en médecine, il y a des patients qui disent « Non, moi, je suis pas stressé du tout. Moi, je travaille 12 heures par jour, mais j'aime mon métier, je suis pas stressé. » Et puis un jour, crac, c'est là qu'il y a le problème parce qu'on a trop tiré sur la corde. Donc voilà, important de vérifier. Et s'il me reste un peu de temps, évidemment, je vais vous donner quelques pistes.
Mais bien sûr qu'il en reste, bien sûr, mais il ne manquerait plus que ça qu'on se quitte maintenant. Oui, donnez-nous des pistes.
Alors, il y a deux pistes. La première piste, c'est de faire par anticipation. C'est-à-dire, on sait qu'on va être stressable, qu'on ne mange pas tous très bien, qu'on va avoir des nuits blanches, etc. Donc, ça nous rend plus fragiles. Donc, il faut choisir sa propre méthode de gestion du stress. C'est banal de dire ça. Mais, par exemple, moi, je suis un grand pratiquant de yoga depuis l'âge de 14 ans. Donc, le yoga, ça a été ma méthode. Mais pour d'autres, ça va être le piano. D'autres, ça va être le tai chi chuan ou le sport ou la cuisine. Hein. Voilà. Il faut trouver un échappatoire, une décompression, la sophrologie, enfin, peu importe, une technique qui, pour nous fait du bien, est bienveillante avec nous et nous permet de descendre le niveau de stress, un peu comme un pompier qui s'entraîne. Le jour où il y a un incendie, ben, il sait quoi faire. Ça, c'est vraiment important. Et je ne sais pas si tout le monde qui m'écoute là se retrouve là-dedans à sa petite méthode anti-stress, mais il faut la pratiquer. Pas un jour sans une technique anti-stress.
Ah, mais tous les jours, technique anti-stress, quoi qu'il arrive. La méditation est obligatoire aussi.
Mais bien sûr. Alors, la plus simple des techniques, c'est par exemple, le matin, de commencer sa journée avec un petit travail musculo-ligamentaire. Ça peut être du pilates, un petit footing s'il fait beau, une petite pratique de yoga. En tout cas, un éveil corporel, parce que le corps et l'esprit, c'est intimement lié. Et puis, la même chose le soir, mais à l'inverse. Là, le soir, c'est plutôt un peu de relaxation, un petit rituel d'endormissement. Décroître la pression, tout simplement, par ce que l'on aime. Hein. Ça va de la méditation jusqu'au sport. Hein. Mais, évidemment, lorsqu'on ressent qu'on est allé trop loin, qu'on a oublié tout ça et qu'on est dans une période de pression, de surcharge de travail, de manque de temps, hein, c'est souvent un facteur de stress. Alors là, moi, je recommande, parce que c'est extrêmement validé avec des niveaux de preuve grand A en médecine, c'est le magnésium. Prendre un magnésium à bonne dose, ne pas hésiter à avoir des doses, bien sûr, c'est sur le conseil d'un professionnel, mais soyons très clairs entre nous, entre 400 mg, 600 mg, 800 mg de magnésium élément, bien toléré, parce que le magnésium à ces doses-là, ça peut donner des troubles digestifs. Donc, il y a des formes galéniques, donc des formes de magnésium très bien assimilées et très bien tolérées. Elles sont nombreuses, ces formes, et on peut les répartir dans la journée si on a cette notion de stress. Alors, le glycérophosphate, les bisglycinates, les citrates de magnésium, les tréonates, voilà, il y en a beaucoup. Plus des multivitamines du groupe B, soit dans l'assiette, parce que ça, c'est plus facile d'avoir des vitamines B avec de la levure de bière, par exemple. Ou alors, on prend une très bonne formulation de vitamine B naturelle avec du magnésium, ça marche bien aussi. Donc ça, c'est vraiment les deux éléments importants. Et comme je le disais, c'est vraiment fondé sur la science. On sait que quand on prend magnésium, vitamine D, vitamine B6 notamment, dose physiologique, de l'acide aminé taurine. La taurine, c'est quelque chose aussi qui va accompagner l'action du magnésium sur les cellules nerveuses. Et bien tout ça, ça réduit la charge de stress en quelques jours. Après, vous parlez de deux conseils. Le deuxième, c'est qu'il existe des plantes, qu'on appelle des adaptogènes. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça favorise les capacités adaptatives de notre corps. Alors, les adaptogènes, vous les connaissez. J'aime bien commencer par celui-ci parce que c'est mon favori, c'est le romarin. On l'oublie. Puis après, on part dans l'exotique, l'ashwagandha, le ginseng. Mais le romarin de nos campagnes, de l'Europe, c'est une très, très, très bonne plante adaptogène. Donc, moi, j'aime bien soit des 2-3 tasses de tisane de romarin bio, soit des extraits de romarin, soit même une ou deux petites gouttes de romarin en huile essentielle, en acétate de bornyl verbénol. Donc on a plein de possibilités de plantes adaptogènes qui, prises pendant 15 jours, 3 semaines, vont accompagner l'organisme le temps qu'on reprenne en main notre vie et qu'on fasse notre petit rituel.
Alors, ce qui est important, évidemment, de rappeler, c'est que...
Salut, Moi, c'est Pollux. Alors, n'oubliez pas que
tout ça
ces
se fait avec les conseils d'un professionnel de santé.
Ni un médical, ni un traitement. Consultez votre médecin généraliste.
Mais oui, évidemment. Donc là, on est vraiment en train de parler. En plus, bon, le stress, c'est pas une maladie en tant que telle. Hein. C'est avant que ça ne déclenche quelque chose de plus compliqué. Donc, le gérer par les techniques que vient de vous citer le docteur Olivier Coudron, par exemple.
Est-ce alors, que... Fabrice, oui. Fabrice, un petit détail. Oui. Le stress, ça peut être une maladie. Je corrige. Stress.
D'accord.
Eh oui, le stress est à la fois un facteur de risque. Hein, lorsqu'on a une charge élevée, c'est un facteur de risque de plein de maladies cardiovasculaires, immunitaires, eczéma, neuropsychiatriques. C'est un facteur de risque. Ce stress est un mécanisme qui nous protège et qui nous adapte si on sait nourrir les mécanismes. Mais le stress, c'est aussi une maladie. On voit des patients qui viennent en disant « Voilà, moi, je suis victime du stress. Ça me gâche la vie. » C'est souvent confondu avec les troubles anxieux. Hein, c'est souvent associé. Mais on doit considérer le stress aujourd'hui comme une vraie maladie. Dans des stades avancés, mais on appelle ça le burn-out. Hein. C'est un niveau de désadaptation, le surmenage, le burn-in, le burn-out. Ce sont des maladies authentiques, hein. Véritablement. Ah. C'est pas dans la, enfin, si, c'est dans la tête et dans le corps, mais c'est une véritable entité qui est considérée comme aujourd'hui un syndrome dans le DSM-5, hein, dans les manuels de psychiatrie. C'est les troubles de l'adaptation, c'est un trouble réel.
Très bien, ben merci d'avoir reprécisé, parce que parfois on peut voilà, aussi le négliger, cela, et ce qui entraîne des conséquences fâcheuses. Merci de ce recadrage, mon cher Olivier. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission Neuronutrition avec vous. Et d'ici là, si vous venez d'arriver et vous voulez réécouter cette émission dans son intégralité, sans coupure musicale peut-être, parce que vous êtes sur le live, eh bien rendez-vous en podcast tout de suite. L'émission, elle est déjà là sur le site nutriradio.fr dans la partie médias et podcast. Si elle n'est pas là tout de suite, elle va arriver dans les 30 secondes. Vous savez que Brian, il fait, qui est le responsable de la programmation, un travail incroyable pour être tout le temps au taquet. Merci beaucoup Olivier, à la semaine prochaine.
Merci, à bientôt.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.